Voilà. Ben, je vous invite à... On va prendre le texte de 2 Chroniques 34. Et c'est vraiment un texte sur lequel on va rester pendant quelques semaines, en tout cas chaque fois que j'aurai l'occasion de prendre la parole les dimanches. 2 Chroniques 34. Nous avons dans ce texte une histoire, l'histoire de Josias, mais qui nous parle d'une réforme. Je crois que nous sommes, en tant qu'église locale, et peut-être au-delà, nous sommes à une situation charnière. Nous sommes appelés église Josué. Josué, c'est la conquête. Il faut défoncer, il faut prendre le terrain. Et c'est comme si ça a été fait quelque part, on a fait le mieux qu'on a pu, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on va faire de ce terrain? Qu'est-ce qu'on va faire des lieux, de la position que Dieu nous donne? Et c'est là que nous avons l'histoire de Josias, qui est comme un bon relais de l'histoire de Josué. Et Josias, c'est dans 2 Chroniques 34, on va le lire, et je prendrai juste quelques aspects. C'est très très parlant, ça m'a beaucoup parlé, et je crois que le Seigneur me souligne ça pour l'Église, et on va rester plusieurs fois dessus. Donc on va le lire, chapitre 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, marcha dans les voies de David son père, il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Pendant 8 années de son règne, comme il était encore jeune, il se mit à rechercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il se mit à purifier Juda, Jérusalem, des hauts lieux, des poteaux d'Akéra, des statues, des idoles de métal fondu. On renversa devant lui les autels de Baal, il abattit les obélisques qui étaient dessus, il brisa les poteaux d'Akéra, les statues et les idoles de métal fondu, il les réduisit en poussière, il répandit la poussière sur les tombes de ceux qui leur avaient été sacrifiés, il brûla les ossements des sacrificateurs sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et jusqu'en Nephtali, parmi leurs ruines, tout alentour, il renversa les autels, les mit en pièces, les poteaux d'Akéra, les statues, les réduisit en poussière. Il abattit tous les obélisques dans tout le pays d'Israël, puis retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, pour purifier le pays et le temple. Il envoya Shaphan, fils d'Astayahou, Massayahou, chef de la ville, et Yoa, fils de Yoaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur, Ikiya, et l'on donna l'argent qui avait été apporté pour la maison de Dieu et que les Lévites, gardiens du seuil, avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël, ainsi que de tout Juda et Benjamin. Et ils revinrent à Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui avaient la responsabilité de faire l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Ils le donnèrent à ceux qui faisaient l'ouvrage, travaillant dans la maison de l'Éternel, pour consolider et réparer la maison. Ils le donnèrent aux artisans, aux constructeurs, pour les achats de pierres de taille, de bois destinés aux assemblages, ainsi que pour les charpentiers, charpenter les bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous la responsabilité de Ayab, d'Abdias, Lévite d'entre les fils de Merari, et de Zacharie et Mekoulam d'entre les fils des Kéatites, chargés de la surveillance. Ces Lévites étaient tous d'habiles musiciens. Ils s'occupaient des travaux, ils surveillaient tous ceux qui faisaient l'ouvrage, chantier par chantier. Il y avait encore d'autres Lévites, secrétaires, commissaires, portiers. Quand on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkia trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par l'intermédiaire de Moïse. Voilà, on va s'arrêter là. On ne va pas parler de tout l'ensemble du texte, mais juste quelques points généraux par rapport à ce livre de Josias, quelques caractéristiques que je veux donner. Et ensuite, on va aller dans le détail du texte. Et je pense que c'est l'ombre de choses à venir. Ce texte nous parle de l'ombre des choses à venir. Et ces choses à venir, j'aimerais vous dire, ce sont des choses présentes. Donc, il y a des choses dans ce texte à tirer pour aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une analyse prophétique de ce texte qui est tellement réelle pour aujourd'hui. Alors, Josias, il a vécu un processus qui est long de recherche de l'Éternel, avant que ce réveil n'éclate. Alors, il a été roi à 8 ans. Donc, déjà pour les enfants, roi à 8 ans, j'aimerais dire que la royauté du Christ, il n'y a pas d'âge. Hein, et Dieu vous appelle à gouverner. Et ça va dépendre de votre recherche de Dieu. Et ça, c'est pour nous aussi. La 8e année de son règne, donc il avait 16 ans, il chercha le Dieu de son père. Puis la 12e année, il commença à purifier le pays. Donc, vous voyez, établi roi. Ensuite, il cherche le Dieu de son père. Et ensuite, il purifie le pays. On va voir. On est au seuil d'une nouvelle réformation aujourd'hui de l'Église, du corps de Christ. Dieu est en train de parler des ministères, de la compréhension de ce qu'est l'Église, des relations les uns avec les autres. Dieu est en train de faire ça depuis quelque temps et c'est très semblable à ce qu'on va voir chez Josias. Le déclenchement du réveil chez Josias, il s'effectue une fois que la maison de l'Éternel est en train d'être réparée. Il n'y a pas de réveil sans réparation de la maison de l'Éternel. Et le désir de restauration, de voir le standard biblique dans l'Église, d'être appliqué aujourd'hui, c'est ça qui entraîne la restauration. Josias avait ce désir dans son cœur. Mais ce désir dans son cœur, il est venu parce qu'avant, il a recherché Dieu. La restauration personnelle de Josias, la purification personnelle de Josias, lui a donné de désirer ardemment la restauration de la maison de Dieu. Quand nous sommes touchés par Dieu dans le fond de notre cœur, personnellement, le meilleur signe d'une véritable restauration, c'est qu'on commence à avoir une vision de la restauration pour la maison entière. Vous voyez, ça n'a rien d'individualiste. Dieu commence par des individus, mais le cœur de Dieu, c'est sa maison. Rappelez-vous le message l'année passée de David qui parle à Salomon. Il dit, Salomon, que Dieu soit avec toi pour rebâtir la maison de l'Éternel. Pourquoi est-ce que Dieu est avec nous ? Pas pour qu'on soit en bonne santé en premier, pas pour qu'on soit heureux en premier, pas pour qu'on s'épanouisse en premier. Dieu est avec nous pour qu'on fasse ce qu'il veut que l'on fasse et qu'on rebâtisse sa maison. La renommée de la maison de Dieu, ça doit être notre passion. C'est pour ça qu'il veut nous restaurer. C'est pas pour nous-mêmes en premier. Bien sûr qu'il nous aime, bien sûr qu'il... Mais l'objectif, c'est sa maison. L'objectif, c'est que sa maison soit une maison de prière pour les nations et qu'elle soit un instrument de guérison pour les nations. C'est ça l'objectif de Dieu. Donc, la réformation est aussi le résultat d'une combinaison de ministères. Dans ce passage, et dans le passage qu'on aura l'occasion de voir après, nous avons le roi qui travaille en relation étroite avec le sacrificateur, qui travaille en relation étroite avec la prophétesse, qu'on n'a pas lu mais qui vient dans la suite du chapitre, et qui travaille en relation étroite avec les artisans, les ouvriers, etc., les musiciens. Tout ça. Vous n'avez aucun travail solitaire. Personne n'est tout seul dans son business, mais ils sont comme ça, chacun connaissant sa sphère de responsabilité, d'autorité, etc. Là, nous avons des clés dans ce texte d'une réforme. Parce que toute réforme se fait avec un ordre qui est rétabli. Et l'ordre qui est rétabli, c'est un ordre dans nos cœurs, de relation avec Dieu. C'est un ordre de nous libérer du péché, de nous libérer de tout ce qui nous entrave. Ça, c'est l'ordre qui commence. Mais ensuite, c'est l'ordre dans sa famille, dans son église. Dans toute famille, il faut de l'ordre. Chaque famille a ses petites règles, ses petits trucs. Mais il faut, sinon ça ne marche pas. Hein. Il y a des heures de repas, par exemple. Oui, etc. Nous avons besoin de retrouver ça. Et ensuite, le cinquième point, c'est qu'il va redécouvrir des aspects fondamentaux de la foi. Dans la suite du passage, ici, de Deutéronome 34, et après, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va poser un acte, il va fêter à nouveau la Pâque. Et la Pâque, c'est le signe, l'annonce du sacrifice de Jésus. Donc c'est comme s'il remettait la nation au centre de tout, mort et résurrection de Jésus. Et recentrage au niveau doctrinal, au niveau des yeux du cœur, sur l'essentiel, sur le plus important. Et à partir de ce centrage-là, la réforme se fait. Vous voyez ? Une réforme musicale, une réforme artistique, tout ça ne peut pas se faire en dehors d'un retour au sacrifice de Jésus et de sa nouvelle compréhension plus profonde, plus enrichie, dans laquelle le Saint-Esprit veut nous faire aller. Et à partir de cette compréhension-là, à partir de cet impact dans nos vies, de ces vérités fondamentales de la foi, alors on se développe dans tous les domaines que Dieu nous a donnés. Voyez, voilà. Et ça, attention, et on verra, dans ce réveil, nous avons des principes extraordinaires. La réformation en germe dans le chapitre 34 est marquée par cet ordre, cette organisation, un peu comme la notion de corps de Christ, Éphésiens 4, où chacun, chaque articulation, dans Corinthiens aussi, chaque membre a sa place. Il y a une seule tête, c'est Jésus. Il y a des épaules, c'est le gouvernement, c'est ce qu'on appelle les anciens. Ce n'est pas qu'ils sont plus que les autres, mais il y a tout le corps Et si, s'il n'y a pas une partie, si une partie manque, ça cloche, quoi. Donc, ça demande beaucoup de coordination. Toutes les articulations au milieu de nous, dans le projet qui est devant nous, il est évident que Dieu va accélérer le processus d'articulation au niveau de son corps. Et ça, on a besoin de chacun. Vraiment, vraiment de chacun. Ce n'est pas un besoin forcément pratique, mais c'est un besoin de que chacun puisse être vraiment à sa place. Et puis on voit qu'il y a une purification, c'est un autre principe, progressive et continue. Dans Apocalypse, il est dit que celui qui se purifie encore. Voyez, et c'est ce processus de purification continuelle qui amène la réforme qui grandit. Pas de réforme sans purification. La parole de Dieu est appliquée, non pas dans des choses seulement générales, mais dans le détail. Et moi, ce qui m'a interpellé dans ces chapitres, c'est les détails d'ordre, d'organisation, qui sont une application de la parole de Dieu. Alors, complémentarité des ministères, articulation, relation, recherche de la volonté de Dieu par la loi qui est redécouverte, les trésors du passé, la loi, elle existait déjà, mais on l'avait perdue, perdue de vue. Et alors, il a fallu la retrouver. Et c'est cette redécouverte de la loi, de sa profondeur, qui a accompagné la réforme de la nation. Voilà, nous avons ici, et nous verrons plus dans les détails, plusieurs des ingrédients. Et maintenant, on revient au texte et on prend les quelques versets et j'essaye de voir une extrapolation par rapport à nous aujourd'hui. Les premiers versets, Josas avait 8 ans lorsqu'il devint roi, il régna 31 ans à Jérusalem, il fit ce qui est droit aux yeux d'Éternel, il marcha dans les voies de David son père, il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Il n'est pas dit qu'il marcha dans les voies de Dieu. Il est dit qu'il marcha dans les voies de David, son père. Nous avons ici un grand principe de la marche de Dieu. C'est qu'à un stade donné d'enfance ou d'adolescence spirituelle, on a besoin de suivre des modèles humains. Et ces modèles humains nous accompagnent, nous fortifient pour qu'on arrive à chercher ensuite le modèle divin. Nous sommes appelés à être des modèles humains pour que les jeunes qui sont derrière nous, les enfants qui sont derrière nous, ils puissent suivre la voie qu'ils voient que l'on marche. Voyez, c'est facile, il y a des gens qui disent « moi je suis Dieu seul ». Eh bien, vous savez, Dieu, il utilise des hommes et des femmes pour que nous donner des références dans notre vie. L'apôtre Paul disait « soyez mes imitateurs ». 1 Corinthiens 4, 16. Il n'a pas dit « soyez les imitateurs de Dieu ». Il est dit « soyez mes imitateurs ». Étonnant. On peut dire « mais quel orgueil ». Mais non, c'est un principe humain. C'est-à-dire, on a besoin de modèles humains. Et Josias a eu la chance d'avoir un modèle humain. Et je dis ceci à nous en tant qu'adultes. La génération qui nous suit, elle nous regarde. Dans notre engagement, dans ce qu'on fait, dans notre foi et dans notre consécration. Lorsque l'on chute personnellement ou qu'on désobéit, il nous regarde. Nous ne sommes pas seuls à vivre notre foi. Si nous dévions de notre foi, derrière, il y a des répercussions. La voie que l'on trace, c'est une voie qui est regardée. Dans cette église, depuis 92 où elle est née, je sais, il y a eu des jeunes qui ont lâché la foi à cause de comportements d'adultes. Ça, je peux vous le dire, franchement. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont raison de lâcher, mais non, mais je peux vous dire que c'est tellement important le modèle. Et inversement, quelques bons modèles, c'était ce qui a fait que ça a duré. Le modèle de parents, bien sûr, ça commence par là. Entre parenthèses, je ne sais pas de politique, là, mais Sarkozy, il a fait une lettre aux enseignants que j'ai envoyée par Internet à toute l'Église. Intéressante. Bon, ce n'est pas la parole de Dieu, hein, mais il dit, les parents, premier responsable des enfants, il faut que la foi, les aspects d'une autre dimension rejoignent l'école. Il faut arrêter de mettre d'un côté les intellos et de l'autre côté les manuels, etc. Tous des principes bibliques qui sont là. Donc c'est intéressant. Donc là, on a, je crois que dans notre pays, il y a des vents, il y a un frémissement de réforme qui est là. Ce n'est pas parfait, mais continuons à prier pour nos autorités. Donc, le modèle des parents, le modèle des gens, 1 Corinthiens 11, soyez mes imitateurs, Philippiens 3, 17, soyez tous mes imitateurs, 1 Thessaloniciens 1, 6, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. C'est truffé dans la parole de Dieu. Peut-être qu'on n'a pas assez eu de modèles En tout cas, la génération qui vient a besoin de plus de modèles que jamais. Et peut-être tu te dis, moi j'ai que 20 ans, j'ai que 21 ans, je ne sais pas, est-ce que je peux être un modèle ? Mais bien sûr, et je peux dire aux jeunes qui sont là, les pré-ados et les ados, ils regardent qui ? Ils ne regardent pas les vieillards comme nous. Hein. Ils regardent, j'exagère là, mais ils regardent les jeunes comme nous. Ils regardent ceux qui sont juste au-dessus d'eux. Ils regardent ceux qui sont juste au-dessus d'eux. Attention à comment vous faites, ce que vous faites, etc. Et les pré-ados, c'est les enfants qui vous regardent. Donc, quand tu t'engages dans la louange, quand tu pries à haute voix dans l'église, t'es regardé et tu joues le rôle d'une courroie de transmission pour que les autres y fassent pareil que toi. On a tous un rôle de modèle, quel que soit notre âge. Hein, nous avons tous des... Voilà, mais ça, c'est très important. Dieu travaille comme ça. Josias, il a suivi les voies de son père. Dans notre société individualiste, on ne veut imiter personne. Mais Dieu dit, ça ne marche pas comme ça. On a besoin de modèles à imiter. Moi, je t'encourage. Quel est le modèle que tu imites ? Dans ta vie, dis-toi. Alors, tu vas me dire, oui, moi, je lis dans l'histoire de l'Église les modèles. Ça, c'est très bien. Et je crois que les biographies, tout ça, ça peut aider. Mais il nous faut des modèles humains aussi, aujourd'hui. Il nous faut des gens qui nous inspirent. Il nous faut... Et moi, je vous encourage à trouver et à côtoyer ces gens-là. En fréquentant les sages, on devient sage, dit la Bible. Alors voilà, hein, ça c'est... voilà. Il y a des gens qui cherchent tellement l'idéal qu'ils ne vont jamais le trouver. Ce n'est pas ça non plus. Il y a des gens qui disent, moi je ne pourrais jamais être un modèle parce que tu vois là, je ne suis pas parfait, tout ça. Arrête. On est tous pareils, on a nos problèmes, tout ça. Mais Dieu nous dit, sois un modèle. Alors voilà, avec ce qu'on a, avec la grâce de Dieu, si on tombe, on se relève, mais on veut être des modèles. Donc ceux qui disent, moi je suis béni partout, j'aimerais dire qu'ils ont tort. Parce que Dieu, il bénit plus quand on est dans une famille que quand on est des enfants orphelins. Dieu bénit dans un corps. Dieu bénit dans une famille. Plus, ça ne veut pas dire que les orphelins les laissent. Non, c'est le Dieu des orphelins. Mais Dieu, le principe de la parentalité qui déverse sa vie, son modèle sur les enfants. Et je pense la parentalité au sens large du terme, au sens famille de Dieu. C'est là que l'on grandit. Ceux qui disent, moi... je suis béni, je n'ai pas besoin ni d'alliance, ni de repère, ni de famille, Dieu seul, flan, mon ministère. Ça ne marche plus, c'est terminé. C'est passé, poubelle. Cliquez, poubelle. Reset. Il faut arrêter, ça ne marche plus. Dieu, c'est dans le cadre de sa famille qu'il éduque ses enfants. Et les cœurs de père, c'est au travers de père, et les cœurs de mère, c'est au travers de mère, mais physiquement aussi. Regardez, dimanche dernier, cet homme noir, là, quel cœur de père, grand-père il avait. Mais de l'amour de Dieu comme père s'est déversé au travers de lui, d'un homme charnel. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors Josias, il a eu ce fondement, la voix de son père. Ah, il dirait, moi, j'irai dans cette voie-là. Je veux suivre ce modèle. Le premier modèle de Dieu n'est pas découvert dans la Bible pour les gens, mais il est découvert dans la vie de ceux qui connaissent la Bible. C'est différent. Jésus, pareil. Les gens ont regardé Jésus. Ils l'ont vu faire. Et Jésus a dit, ben voilà, moi je te conduis au Père. Mais ils avaient besoin d'un modèle humain. Et Jésus est venu sur cette terre pour être ce modèle humain. Voilà, ça c'est un principe important. Sur les traces de qui tu marches. Ensuite, il est dit, la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David. Vous voyez, il suit les voies de David, son père. C'est une première étape. Le modèle, quoi. Et ensuite, le modèle le conduit à suivre le Dieu de son père. Et là, il commence à grandir, voyez. Il commence à avoir une maturité. Et alors, la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem. Il a cherché à suivre les voies de David. Maintenant, il cherche le Dieu de David. Qu'est-ce qui se passe quand on cherche Dieu? Il y a une purification qui se fait. Et immédiatement, purification intérieure conduit à une purification extérieure. Et alors, il a voulu commencer à purifier Juda. Rappelez-vous Gédéon, l'appel de Gédéon. Il aurait pu dire, Dieu m'appelle, go. Non. Dieu t'appelle, ok, tu commences à abattre l'idole de ta famille. Et ils adoraient Baal, le père de Gédéon, il y a statue de Baal en plein devant là. Alors ils adoraient Dieu, bien sûr, en même temps. Ils faisaient un peu le dieu du pays, c'était Baal, alors il ne fallait pas le laisser. Et le dieu de notre pays, c'est qui? L'humanisme. Le Dieu de ce pays, c'est l'homme. Le Dieu de ce pays, c'est une culture des hommes, sagesse humaine. C'est des principes au niveau de la pensée, de la philosophie. C'est pour ça qu'on s'occupe d'école. Parce que le Dieu de ce siècle, on veut lui foutre un coup. On veut le démonter. On veut lui faire la peau. On dit c'est Christ le centre de tout. Le centre des activités culturelles, intellectuelles et tout. Le Christ au centre, point barre. Et à partir de là, on défonce l'idole. Et Gédéon, il a détruit l'idole de son pays avant de rentrer dans son ministère. Et pour ça, vous savez, c'est tellement... Ensuite, il a fait un sacrifice, tout ça, et puis il a sonné le rassemblement. Et tout le monde est venu, il ne l'a pas fait tout seul, encore une fois. Donc là, on a besoin de ce modèle de Josué. Josias, c'est les mêmes racines, hein, c'est Jésus, tout ça. Hein. Donc, pour voir aujourd'hui comment on peut faire renverser les balles, avant de rentrer dans un ministère, il nous faut renverser nos balles, personnelles et collectives. Attention à ne pas brûler les étapes. Ça ne marche pas. Et ça peut marcher un moment, et puis le fondement, il est là, puis à un moment, l'ennemi te laisse faire, ensuite, il t'appelle, hop, ici, mon gogo. Et là, t'es bien mal en point. Donc, on a besoin de vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait aucune adoration partagée. Dieu veut une adoration exclusive. Alors, attention au Dieu du pays. Donc voilà, ensuite, il va dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon, Nephtali. Il va parcourir au milieu des ruines. Il a renversé les autels, les idoles. Donc voyez, purification, recherche personnelle qui conduit à une passion pour la maison de Dieu, pour la restauration de la maison de Dieu. Purification à Jérusalem et ensuite ailleurs. Mais tout a commencé par cette quête personnelle et cette assurance que ce n'est pas seulement le Dieu de son père, mais c'est son Dieu à lui. Et c'est ça qui lui a donné l'assurance. Ensuite, verset 8, la 18e année de son règne, quand il eut purifié le pays, il envoya Shaphan, Asiam, Maaseïa, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel. Vous voyez, tout mûrissement personnel conduit à vouloir réparer la maison de Dieu. L'objectif de la guérison physique, émotionnelle, affective, l'objectif pour lequel Dieu il te tire des ténèbres à la lumière, c'est pour que tu sois un artisan de réparateur de brèches dans sa maison. Parce que le Seigneur, c'est sa maison qu'il regarde, c'est sa princesse qu'il veut lever, c'est sa princesse là, sur le pays, qui veut parer. Et pour cela, il a besoin de toi, il a besoin de ta bonne volonté. Et voyez, il a pris des archivistes. Le chef de la ville, il travaille avec la ville. Les restaurations, ça se fait avec les autorités de nos villes aussi. Les contacts, les relations. Vous voyez, par exemple, au niveau de l'école, cette subvention-là du conseil général que nous avons eue, je crois vraiment là qu'il y a une clé. On demande, on dit, voilà ce que nous faisons pour les enfants. Voilà ce que nous croyons être bon pour eux. Nous faisons appel à vous. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et le conseil général dit, je vous aide. C'est un peu la même chose ici. Le chef de la ville, il l'amène. L'archiviste vient. Et ensemble, on va rebâtir la maison du Seigneur. Saint François d'Assise, dans l'Église catholique, ce merveilleux homme, cet homme de Dieu, le Seigneur lui dit, je t'appelle à restaurer ma maison. Tu sais la première chose qu'il a faite? Il a retroussé ses manches, il a rebâti l'église de son village qui était en ruine. Maintenant, regardez, quand nous allons travailler dans les locaux à côté, nous ne ferons pas une œuvre charnelle, mais nous faisons dans le naturel ce que Dieu nous appelle à faire dans le spirituel. Dieu commence toujours par le naturel. Chaque fois que Dieu fait une action dans le spirituel, il y a une action dans le naturel. Le temps qu'on va passer, l'argent qu'on va mettre, la dépense qu'on va donner, c'est le signe d'une restauration de la maison de Dieu. Nous n'avons que faire d'un empire humain. Nous n'avons que faire de tout ça. Nous n'avons que faire d'un nom. Nous voulons que la maison de Dieu soit restaurée et rebâtie. Et alors, comme François d'Assise, cette petite église du village, il l'a retapée et c'est devenu un restaurateur de l'église d'Europe. De la même façon, Dieu nous amène par les petites choses à commencer, mais comme signe de grandes choses. Alors ensuite, Josias, il a travaillé en collaboration, donc avec, c'est pas un ministère solitaire, ça n'existe pas. Et il a respecté les fonctions des autres. Remarquez, Josias, il va voir le sacrificateur. Il aurait pu dire, allez, c'est moi qui ai reçu, go, tout le monde me suit, on y va. Non, non, non. Il va voir le sacrificateur, il lui partage son cœur. Avec le sacrificateur, la sphère d'autorité du sacrificateur, ils vont travailler ensemble sans usurper les places de chacun, sans usurper le rôle de chacun, en ayant un respect mutuel de l'autorité que Dieu a donnée et des talents que Dieu a donnés à chacun. Voilà, il va travailler avec les gardiens du seuil. Les gardiens, les lévites, gardiens du seuil, avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm. Les gardiens du seuil, les gardiens du temple, les gardiens de la maison. Je crois que beaucoup d'entre nous sont appelés à être ces gardiens, vous savez. Les portiers. Dans les temps qui viennent, il y a un ministère que Dieu va relever, c'est le ministère de la porte. Parce que l'église n'est pas un supermarché où c'est des portes battantes et tu rentres, tu sors. L'église du Seigneur, c'est une église où Dieu va commencer à mettre des portiers parce que ce sont des choses saintes. Par contre, dans le parvis, ouvert à tous, où il y a la voie, les apôtres, je disais au niveau de la réunion de responsables, on s'est rencontrés deux jours, là, c'est vendredi soir à samedi, je disais que les apôtres, dans les actes des apôtres, ils enseignaient sur les parvis du temple. Tout le monde était bienvenu. Mais dans l'église, Dieu, c'est Dieu qui amenait dans l'église ceux qui étaient sauvés. Et donc, il y avait cette notion d'articulation du parvis, un rôle différent que dans le temple. Mais le temple, ce n'est pas un hall de gare. C'est ce qu'on veut dire. C'est une famille. L'église est une famille. Ce n'est pas un hall de gare. C'est une famille dans laquelle ceux qui sont membres, il y a des privilèges et il y a des obligations. Comme dans toute famille. Et dans une famille, on ne va pas tout partager quand il y a un invité extérieur. On partage des choses en famille qu'on ne partage pas ailleurs. Nous sommes une famille et dans les temps qui viennent, Dieu va resserrer les liens de cette famille. Et vraiment, les amis et tout ça sont les bienvenus, mais je crois que chaque église est appelée à vivre une dimension familiale qui est propre, qui est nécessaire. Et je crois que l'église ne sera plus un hall de gare, vraiment, ou un self. Tiens, on se sert, tiens, tu as une bonne petite bénédiction là pour moi. Et puis ensuite, quand il y a des besoins, quand il y a un défi familial, ah ben on n'est plus là. On n'est pas là parce qu'au fond, moi ce qui m'intéresse, c'est prendre. Mais Dieu dit, attention, le cœur d'un fils, d'une fille, d'un parent, ce n'est pas de prendre. C'est de se donner. C'est de se donner. Et quand on donne, on reçoit. Voilà, donc cette dynamique-là, je crois qu'il y a vraiment à redonner. Dans 2 Corinthiens 10, il est dit, « Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire, pour mesure, les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Évangile. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. » Les limites, nous avons des limites en tant qu'Église, en tant qu'hommes et femmes, et il faut les connaître. Quelles sont tes limites ? Quelles sont tes limites dans ce que Dieu t'a donné comme appel ? Quelles sont les limites de celui avec qui je travaille ? Et je crois que je prie que Dieu nous aide à fonctionner dans les limites que Dieu nous a données, dans les sphères qu'il nous a données. Les lévites, les gardiens du seuil, les portiers, les artisans, les sacrificateurs, les prophètes, chacun travaillait dans ses limites, parce qu'il connaissait ses limites. Nous avons ici des grands principes, voyez. Dieu va faire qu'on passe d'une église de multitude, tout le monde fait ce qu'il veut, etc., à une église pour la multitude, c'est-à-dire un corps organisé, structuré, pour le monde. C'est différent, c'est différent. Voyez, alors ensuite, on voit... Bon, je passe, mais dans ce texte, il y aurait tellement de choses à dire. Mais nous avons dans les hommes qui travaillent ici, les musiciens par exemple, et un autre type, les fils des Kéatites, nous avons deux tabernacles ici. Dans la Bible, il y a deux tabernacles. Il y a le tabernacle de Moïse. Là, dans la tente, il faisait des sacrifices à Dieu. Et il y a eu le tabernacle de David. Plus de sacrifices, une louange perpétuelle. Tout le peuple pouvait venir dans la présence de Dieu. Mais les deux sont importants. Le sacrifice, les sacrifices de Moïse, dans le tabernacle de Moïse nous parle du sacrifice de Jésus, la base de notre foi. Le tabernacle de David nous parle de la liberté des enfants de Dieu dans la louange, dans son intimité, etc. Mais ici, Josias, il fait appel aux gens du tabernacle de David et aux gens du tabernacle de Moïse. Les deux. Nous ne voulons pas rentrer dans une dynamique de tabernacle de David, louange exubérante, prophétie, tout le monde est là dans la présence de Dieu et on oublie les bases de Moïse, le sacrifice de Jésus, les fondements de la foi. Et en même temps, on ne veut pas rester au fondement sans aller dans la liberté du Saint-Esprit. On veut les deux. Et nous avons dans la clé de la réforme de Josias, c'est qu'il intègre les familles du tabernacle de Moïse et du tabernacle de David, les deux en même temps. Et c'est ce que nous avons comme cœur en tant qu'Église. Nous voulons rentrer dans cette dynamique de réforme-là. Nous voulons garder l'ancien et nous voulons prendre le nouveau. Et nous avons besoin pour cela de toutes les générations. Nous avons besoin de temps, de tabernacles qui sont des temps exubérants, des temps de recherche de l'esprit, des temps de liberté de l'esprit. Et nous avons besoin des temps d'étude de sa parole, des temps de prière. Vous voyez, on a besoin de tout. Et on veut vivre intensément toutes les choses. Et maintenant, il y a autre chose très important. Et là, je termine par là. C'est le verset 14. Quand on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel. Nous avons ici un principe absolu, absolu. Et je le dis dans ces temps qui viennent maintenant, c'est quand le rapport, il y a un rapport entre la révélation et l'obéissance au niveau des finances dans le peuple de Dieu. Lorsqu'ils ont mis l'argent pour rebâtir la maison de Dieu, ils ont découvert le livre de la loi. Je peux vous dire une chose, c'est qu'ils n'auraient pas apporté l'offrande, ils n'auraient pas découvert le livre. La révélation de Dieu va avec l'obéissance à Dieu. Et je vous dis ça, c'est, toute obéissance à Dieu, c'est pour nous libérer. C'est pour nous libérer. Les lois de Dieu, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour nous libérer. Et vous voyez, moi je vous dis que dans les temps qui viennent vraiment, c'est un appel, je ne parle pas à nos invités, je ne parle pas aux sympathisants de l'Église, je parle à ceux qui disent « cette Église, c'est ma famille ». Eh bien, vraiment, je vous invite à une fidélité dans ce domaine-là. Au moment où on apporte les offrandes, Dieu, on découvre sa loi. Alors vous allez dire, mais moi, je connais déjà la loi de Dieu. Non, non, mais Dieu veut nous découvrir, faire découvrir des profondeurs de sa loi, des nouvelles révélations. Mais il ne le fait pas. Il ne jette pas les perles au pourceau. Il le fait aux gens qui marchent avec lui. Et il y a des lois dans sa parole, de dîmes, d'offrandes tellement, tellement importantes. Je veux mettre aucune pression sur chacun, mais je dis, on ne verra pas la gloire de Dieu sans la discipline dans les affaires financières. Et en tant que famille, moi je sais que dans une famille, quand quelqu'un est dans le besoin, eh bien je peux vous assurer qu'il y a l'entraide qui est là. On voit ça dans les familles nord-africaines, je vous assure, on voit ça dans l'Église, on le voit parfois moins. Mais je crois que nous devons retrouver cette dynamique-là. Avant de rentrer dans une dimension sociale et d'entraide, nous avons besoin de rentrer dans une dimension déjà fidèle au niveau des choses de base que Dieu nous donne. C'est tellement important. J'ai rencontré, jeudi dernier, un ancien membre de cette église. Ceux qui le connaissaient, c'est Jean-Jacques Ergot, un ancien parent d'élève, un ancien membre de cette église. Et puis, dans les années 93-94, il est parti. C'était un homme super, hein, vraiment. Il nous a bénis. Et puis, il m'a dit, écoute, depuis que j'ai quitté, eh bien, donc il ne s'est plus intéressé aux choses de Dieu. Et il a commencé à s'occuper de politique. Il a été l'adjoint au maire de M. Bocquel à Mulhouse pour les affaires de sport, sportives. Et il m'a dit, dis-le à mes frères et sœurs. Donc, ce que je vous dis là, ce n'est pas caché. Et puis, il est rentré dans le business, tu vois, les hommes, la puissance, les hommes politiques, tout ça. Et puis, il allait dans la ZUP de Mulhouse. Il était connu par tous les Arabes et tout ça, comme un homme de cœur, un homme de relations. Mais plus de relations avec Dieu, petit à petit. Et puis, à un moment, il y a eu des tentations. Des tentations au niveau financier, fausses factures, etc. Avec des avocats, des notaires. Vraiment, là, le gratin, quoi. Et puis, paf, ça a été dévoilé. Et il y a un an et demi, grosse affaire, prison. Toute la clique, là. Et il m'a dit, le premier jour où il est rentré dans sa cellule, il s'est mis à genoux, il a levé ses bras, il a dit, Seigneur, pardon. Et Dieu est venu puissamment le visiter. Et dans sa cellule, c'était un lieu d'évangélisation, ensuite, pour tous ceux qui sont venus. Il a dû faire 4 mois, bon, il a fait 4 semaines, il a perdu sa maison, il a tout perdu, payé sa caution, 80 000 euros. Mais il a dit, j'ai tout perdu, mais j'ai tout gagné. J'ai retrouvé le Seigneur. J'ai retrouvé la communion avec ma femme. Mes enfants sont revenus à Dieu. Mais est-ce qu'il faut... Et il m'a dit une chose, et c'est pour ça que j'insiste. Il a dit, maintenant, je connaissais Jésus comme mon sauveur, mais je ne le connaissais pas comme mon Seigneur. Au niveau financier, je faisais ce que je voulais. Il dit, maintenant, c'est clair. Je donne à la maison de Dieu quand je dois donner. Ça ne m'appartient plus. Quand Dieu me donne de demander à donner à quelqu'un de nécessiter, je le fais, etc. Et vous savez, il m'a parlé, on a passé quelques heures ensemble, et plusieurs fois, il avait les larmes aux yeux quand il pensait à un malade, à quelqu'un dans la souffrance, tout ça. Un homme brisé, brisé totalement, mais un homme dont le parfum de Christ s'élève. Il est rattaché à l'église mennonite de Pfastatt, et c'est super, et vraiment, il a dit, voilà. Moi, j'ai devant moi un homme changé, mais un homme qui est passé sous la discipline de Dieu. Et l'amour de Père de Dieu a fait qu'il a dit, maintenant, ça suffit, stop. Et il l'a arrêté dur, hein, dur. On n'a pas besoin de ça pour être arrêté si durement. Soyons attentifs à Dieu. Ne nous éloignons pas de lui et prenons sa parole au sérieux, vraiment. Et le Seigneur va nous bénir parce qu'il a devant notre pays, il a pour nous une réforme dans notre nation. Il a pour nous non seulement un réveil, mais une réforme. Et cela, ça commence par de l'ordre, ça commence par la complémentarité. C'est tout ça qui est nécessaire. Alors que Dieu nous aide à rentrer, que Dieu nous aide à être ce corps bien articulé et prions les uns pour les autres, que là où les jointures ne sont pas très bonnes, et bien que ça puisse se mettre là, que les individualistes et bien, commencent à dire ben moi je veux travailler, je refuse de prendre tout seul des choses, tout ça, et que ceux qui, où c'est un peu le foutoir, et bien que Dieu nous aide à, voilà, que Dieu nous aide à compléter là où il y a des faiblesses chez les autres et tout ça, et qu'on soit un seul cœur, une seule âme, une seule pensée, et dans la foi, dans les temps qui viennent. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'exemple de Josias. Seigneur, et nous voulons tellement tirer les trésors de cette parole, mais non pas comme intérêt intellectuel, amasser des connaissances de ta parole, mais simplement parce que notre désir, c'est de mieux t'obéir, Seigneur. Alors, merci pour ta parole. Et nous annonçons, Seigneur, cette nouvelle réforme dans cette nation. Et nous disons, Seigneur, touche nos cœurs par ta parole. Rectifie, redresse ce qui est tordu. Et Seigneur, dans nos vies, nous disons, nous voici. Et nous voulons te connaître comme Seigneur, et pas seulement comme Sauveur et comme Père qui fait du bien, mais comme le Seigneur qui gouverne notre vie. Afin que nous puissions nous-mêmes aussi gouverner en ton nom. Le gouvernement de justice, de paix et d'amour, là où tu nous places. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Et maintenant, j'aimerais qu'on termine simplement ce culte. Je m'adresse aux membres de l'Église, mais par simplement nos dîmes et nos offrandes. Je veux vraiment prier pour cela. Et que ce moment soit un moment où on dit, Seigneur, maintenant, je veux qu'il y ait cette discipline, non pas seulement dans ce domaine-là, mais dans les autres domaines de ma vie. Seigneur, fais grâce, sans toi, je ne peux pas. Mais Seigneur, maintenant, comme Josias, lorsque l'argent a été donné, on a découvert le livre de la loi. Je te prie que ces sommes d'argent versées maintenant ne soient pas pour un bien-être ou pour un empire ou pour quoi que ce soit, mais soient pour ton royaume et pour la réforme et pour les outils que tu nous donnes en tant qu'Église dans cette région. Seigneur, touche nos cœurs et qu'il y ait abondance dans ta maison. Seigneur, nous n'avons pas la prétention de pourvoir à tous les besoins. C'est toi qui pourvois. Mais Seigneur, nous donnons nos pains et nos poissons avec certitude que c'est toi qui multiplies. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous disons prospérité dans ta maison, Seigneur. Nous disons bénédiction dans ta maison, Jésus. Et que la loi de Dieu soit révélée à nouveau dans nos cœurs, dans l'Église. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je propose de prendre un dernier chant. Et c'est le chant « Règne en moi ».